Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel dans 30 minutes. Vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin sur le dialogue national au Gabon. Après plus de 3 semaines de discussion, c'est donc aujourd'hui que les conclusions seront remises au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Un dialogue national qui se voulait inclusif pour soumettre de profondes réformes. Alors certaines recommandations sont déjà connues, plusieurs d'entre elles font consensus, mais d'autres font polémique, comme l'instauration d'un régime présidentiel ou encore la suspension de tous les partis politiques en attendant la mise en place de conditions plus rigides de création de partis. Alors ces assises ont-elles été à la hauteur de vos attentes et dites-nous surtout quelles recommandations vous semblent pertinentes pour l'avenir du Gabon. 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les matins évidemment sur nos réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission et le compte WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Abdel. Soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Des questions sur le Niger, 9 mois après le coup d'État.
Oui, en effet, dans une tribune, la fille de l'ancien président Inda Bazoum accuse l'ancien président Mahamadou Issoufou, son prédécesseur, d'avoir orchestré le coup d'État.
Oui.
Alors j'ai deux questions à ce propos. La première, quels arguments avance-t-elle pour accuser directement l'ancien président qui avait dénoncé le coup d'État en son temps ?
Oui, elle accuse effectivement le prédécesseur de son père d'être, je cite, « le cerveau qui a tout orchestré ». Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI, Inda Bazoum ne mâche pas ses mots dans cette tribune publiée dans la presse nigérienne. Elle parle de l'ancien président Mahamadou Issoufou en, je le cite, « lui, l'ami et frère de papa, le trahit de la manière la plus lâche et cruelle ». Quels sont ses arguments ?
Alors, il faut dire que la tribune qui s'appelle « Libérer nos parents », dans cette tribune-là, Inda Bazoum, qui est l'une des filles, hein, pas la seule,
pas la seule
fille,
oui.
Affirme que dire par exemple que Mahamat Issoufou est, je cite, le commanditaire du putsch du 26 juillet, est un secret de Polichinelle. C'est elle qui parle. Elle enfonce le clou et affirme que le prédécesseur de son père à la tête de l'État est, je cite, le cerveau, comme vous l'avez dit, qui a tout orchestré pour protéger ses intérêts. Fin de citation. Alors, selon Inda Bazoum, à seulement 300 mètres des lieux de ce qu'elle appelle séquestration de ses parents, je cite, réside Mahamadou Issoufou dans 6 villas à étage appartenant à l'État, sous la protection de 80 éléments de la garde nationale. C'est son principal argument. Et elle poursuit, je cite toujours, c'est cette même garde qui détient nos parents en otage et que, selon elle, hein, un officier proche de Mahamadou Issoufou n'éprouvait aucune gêne au lendemain de cet événement, c'est-à-dire du coup d'État, pour expliquer à ses interlocuteurs pourquoi le président Issoufou a déposé Bazoum. L'ancien président Issoufou n'a toujours pas réagi, il faut préciser cela, mais les accusations sont quand même assez graves, puisque l'auteur de la tribune va jusqu'à dire que si son père n'est toujours pas libéré, c'est parce qu'il y a un veto de son prédécesseur à la tête de l'État.
Et elle va même plus loin en affirmant que le coup d'État serait le moyen pour lui permettre, donc pour permettre à Mahamadou Issoufou de revenir au pouvoir après une courte transition militaire. Abdel, vous avez une autre question ?
Oui, en effet. Quelles sont les actions qu'elle met en place pour faire libérer son père, qui est détenu depuis des mois ?
Oui, son père, Mohamed Bazoum, détenu par les militaires qui ont pris le pouvoir. Serge Daniel, quand on lit attentivement cette lettre, Inda Bazoum dénonce les conditions de détention. Elle dit que ses parents sont coupés du monde et enfermés sans avoir le droit de sortir, prendre l'air, ni recevoir de visite. Elle dit que depuis 9 mois, ils n'ont pas vu la lumière du soleil et n'ont parlé avec aucune personne. Cette lettre, Serge Daniel, c'est une façon pour elle, finalement, de lancer un appel à la communauté internationale sur le sort réservé à son père.
Ah oui, tout à fait, surtout que pour le moment, elle n'a pas beaucoup de leviers. Obtenir la libération de son père et de sa mère, et c'est pour ça qu'elle écrit justement « Libérer nos parents ». C'est le titre de la tribune, comme je le disais. Alors, elle a lancé un appel à la communauté internationale. En rentrant dans les détails, appel au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, aux organisations internationales de défense des droits de l'homme, pour mettre fin à ce qu'elle appelle violation de la dignité et des droits de ses parents. Elle a remercié un personnage important dans le dossier, c'est le président Faure du Togo, qui, comme vous savez, a œuvré pour la libération du frère de Hinda, qui s'appelle Salem, et elle demande au président togolais de poursuivre sa mission pour obtenir la libération de son père.
Mais la libération de Mohamed Bazoum est-elle envisageable, Serge Daniel, d'autant qu'en ce moment même, à Niamey, la Cour d'État est en train d'être installée pour probablement juger le président renversé?
Ah oui, c'est ça le problème, pour coller à l'actualité. Et la fille de Mohamed Bazoum, dans la tribune, qui parle au nom de sa famille, accuse là encore l'ancien président Mahamadou Issoufou d'être derrière une manœuvre. C'est-à-dire que la Cour d'État a été créée, selon elle, pour demander la levée de l'immunité de son père, pour le condamner, le rendre inéligible à de prochaines élections, pour laisser le champ libre à un retour sur la scène politique de l'ex-président Issoufou. Alors, il faut ajouter que les avocats de Mohamed Bazoum ont demandé très récemment, il y a 24 heures, à la Cour d'État de rouvrir le débat pour leur permettre d'avoir accès au dossier, pour leur permettre de communiquer avec le client, de préparer sa défense. On aura la réponse le 10 mai prochain.
Et on suivra ça, bien évidemment. Abdel, a-t-on répondu à vos questions?
Merci beaucoup, merci à Serge Daniel.
Et merci à vous de votre fidélité à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Serge Daniel, vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réagir à cette lettre ouverte de la fille du président renversé et surtout à ses accusations, n'hésitez pas, on peut en parler vendredi, bien évidemment, dans la libre antenne. Parlons maintenant de cette procédure judiciaire, l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de l'archevêque de Kinshasa. Voilà un sujet qui suscite des questions et surtout beaucoup de réactions au Standard et sur nos réseaux sociaux. Bonjour Isaac.
Bonjour Juan.
À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Oui, bonjour à tous les invités de la RFI. Le procureur général a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo pour incitation à la diffusion des faux bruits. Alors, j'ai trois petites préoccupations.
Oui.
La première, concrètement, quelle est la nature des propos tenus par le cardinal?
Alors, en tout cas, c'est une décision inédite à l'encontre de la plus haute autorité de l'Église catholique en RDC. Bonjour Pascal Moulégois.
Bonjour Juan Isaac.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. Le procureur général, près la cour d'appel, reproche au cardinal Ambongo des propos jugés séditieux. Pourquoi l'archevêque de Kinshasa est-il dans le collimateur de la justice?
Ah, déjà, c'est le procureur général près la cour de cassation, donc c'est le chef de tous les parquets congolais de l'ordre judiciaire. Alors, quand le cardinal, en fait, Fridolin Ambongo prend la parole, que ce soit lors des cultes, points de presse ou interviews, il critique la gouvernance politique et sécuritaire du pays. Il est connu comme un pasteur critique acerbe et il n'est pas le premier à le faire. Ça, il faut le souligner, Juan, parce que tous ses prédécesseurs, que ce soit Malula, Frédéric Etaou ou encore Laurent Monsengo Pasigna, tous ont eu des accrocs avec les régimes successifs. Le procureur général note à charge du cardinal Fridolin Ambongo, je cite, « une constance des propos séditieux de nature à décourager les forces armées qui combattent au front, des propos incitatifs à la maltraitance par les rebelles ».
Oui, mais sait-on, Pascal Moulégois, quels sont les propos mis en cause?
Alors, dans son courrier, en fait, le procureur général ne reprend pas formellement les propos du cardinal. Mais on se rappelle par exemple que lors de la messe pascale, l'archevêque avait par exemple affirmé que la RDC n'avait pas d'armée capable pour se défendre, que les pouvoirs en place posent des actes susceptibles d'inciter à la rébellion, que des populations pourraient considérer les rebelles comme des libérateurs. Il avait aussi découragé ceux qui prennent les armes contre la patrie. Les propos qui ont les plus irrité les régimes de Kinshasa sont surtout ceux repris par l'agence de presse catholique Fides, qui avait attribué au cardinal des propos accusant le gouvernement d'armer les rebelles Hutu rwandais FDLR et les miliciens Wazalendo pour faire face au M23 dans la province du Nord Kivu. Des propos qui avaient ensuite été démentis par l'agence, reconnaissant des erreurs dans la traduction de l'interview qui s'était réalisée en italien.
Oui.
L'agence de presse avait effectivement fait marche arrière et présenté ses excuses.
Effectivement. Vous aviez trois questions, Isaac. Allez-y pour la deuxième.
Oui, la deuxième, le cardinal est-il soutenu par l'Église ?
Par l'Église catholique, j'imagine que oui, Pascal Moulégois, forcément.
Oui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Fridolin Bongo est actuellement la plus importante personnalité de l'Église catholique en Afrique. Hein. Il est président de la conférence des épiscopats du continent et du Madagascar. Et en fait, il est aussi le seul Africain dans les cercles très restreints autour du pape, donc les C9, ses gouvernements. Alors, l'Église n'a cependant pas réagi officiellement à cette action des autorités congolaises. Nous notons tout de même des messages de soutien des fidèles qui mettent en garde quiconque s'attaquerait à leur évêque. On ne peut pas s'imaginer en fait que l'Église puisse appuyer l'un de ses si hauts représentants. Nous en saurons davantage quand le procureur convoquera le cardinal à son office, ce qui sera une toute première dans l'histoire du pays. Un message fort, en fait, qu'envoie le régime à ses opposants qui estiment que le pouvoir de Félix Tshisekedi a franchi les rubicons.
En tout cas, l'opposition et la société civile sont vent debout face à cette décision donc, du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Votre dernière question, Isaac.
Oui. Peut-on s'attendre à un bras de fer entre les autorités et l'Église congolaise ?
Un bras de fer entre les autorités et l'Église congolaise, Pascal Moulégois.
Les bras de fer entre différents régimes politiques et l'Église catholique est quasi permanent en RDC, hein, sur plusieurs questions, notamment sociales et politiques. Il n'y a pas que le cardinal Fridolin Bongo, ça je le rappelle, hein, qui critique les autorités. Il y a en tout cas en première ligne l'influente Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO.
Et on en parlera demain dans la deuxième partie d'Appel sur l'actualité, vu le nombre de réactions que suscite ce dossier. Merci infiniment, Pascal Moulégois, correspondant de RFI à Kinshasa. Isaac, très bonne journée à Lubumbashi. 10h23 à Paris, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Ne restez pas dans le doute, hein, si vous avez des questions, c'est un plaisir tous les matins de vous répondre. Enyeka, bonjour.
Mbote, Ron Gomez et à tous les auditeurs de la radio favori des intellectuels dans le monde et à Kinshasa sur 105.0 FM.
Merci de nous appeler de la capitale de la RDC, la radio des intellectuels et pas que, la radio de tout le monde. Hein. On s'adresse, on est très grand public, d'autant plus dans cette émission. Enyaka, vos questions sur l'actualité.
Oui, le G7 se tient à Turin pour aborder la question de la transition écologique. Les 7 pays représentent 25% des émissions de CO2 mondiales. Quelles pistes envisager pour limiter leurs émissions ?
Alors, c'est vrai que c'est un sommet du G7 consacré à la transition écologique. Bonjour Lola Valéjo.
Bonjour.
Conseillère climat, à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Enyeka le rappelait à l'instant, le G7, responsable de 25% des émissions de CO2. Incontestablement, la mobilisation de ces pays industrialisés est nécessaire, elle est capitale pour lutter contre le dérèglement climatique. Que peut-on attendre du sommet du G7 qui se tient à Turin ?
Alors, il y a une grande discussion sur comment les pays les plus industrialisés vont montrer la voie en termes de direction collective. La dernière conférence internationale sur le climat qui s'est déroulée à Dubaï a donné des engagements forts pour la communauté internationale. Par exemple, tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 ou engager une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Donc ça, c'est des directions générales, mais évidemment, il faut ensuite que ça se transforme en actes. Et donc la façon dont ça va être interprété par les pays qui ont les capacités et une responsabilité importante pour agir fermement sur le changement climatique sera scrutée de très près. Par exemple, ça pourrait être d'avancer sur une date précise pour sortir du charbon.
Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif de la France. Le gouvernement français est allé en Italie pour essayer de convaincre les autres partenaires du G7 de s'engager sur une sortie du charbon à l'horizon 2030. 2030, c'est après-demain.
2030, c'est très rapide. C'est aussi conforme avec ce que projette l'Agence internationale de l'énergie. C'est aussi l'engagement très ambitieux qu'a pris l'Allemagne, qui a une part très importante de charbon dans son mix énergétique. Mais il y a deux pays, notamment le Japon, mais aussi les États-Unis, qui ont également une part importante de charbon dans la production d'électricité. Et Kérosine a un engagement aussi clair. Pourtant, c'est important pour arriver à avoir un effet d'entraînement sur un autre groupe dont on ne parle pas ce matin, mais qui est le G20, qui sont là les 20 pays les plus industrialisés, qui représentent 80% des émissions. Mais il y a dans ce cadre-là des pays émergents, et c'est difficile de leur demander des efforts alignés avec la science si les pays du G7 ne montrent pas l'exemple.
En tout cas, concernant le charbon, hier, on nous annonçait que les ministres étaient proches d'un accord sur la fermeture des centrales à charbon au cours de la première moitié des années 2030.
Oui, et c'est une bonne nouvelle, surtout pour le Japon, qui a non seulement un rôle sur ce qu'il fait chez lui, mais qui a aussi un effet d'entraînement très important en Asie, et notamment pour ses voisins, que sont la Corée et la Chine, qui sont aussi des grands consommateurs de charbon. C'est un signal important. Il ne faut aussi pas que ça obfusque le fait qu'une autre énergie fossile, qui est le gaz, est une énergie dont la consommation continue d'augmenter dans les pays du G7. Or, on sait que l'horizon à terme, c'est bien de sortir de l'ensemble des fossiles d'envoyer des signaux pour la réduction de la consommation, même du gaz, dès cette décennie, pour arriver à tenir l'objectif de 1,5 degré.
Ouais, en tout cas, rappelons que l'un des engagements de la COP28 qui s'est tenu à Dubaï en décembre dernier, c'était de renoncer progressivement au charbon, au gaz et au pétrole. A-t-on répondu à votre question, Enika ?
Oui, merci beaucoup vraiment, et passez une bonne journée là-bas à Paris.
À Paris, et bonne journée à Kinshasa. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter dans la capitale de la RDC. Merci infiniment, Lola Vallejo, d'avoir été avec nous, conseillère climat à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Tosi Maliki, je vous prends juste pour m'excuser, il nous reste deux petites minutes avant la fin de cette première partie, et vu l'importance de vos questions, je trouve dommage de ne pas prendre le temps d'y répondre. Bonjour Tosi Maliki.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde.
Comment allez-vous à Yaoundé ?
Ça va, Yaoundé va bien.
Yaoundé va bien. Est-ce qu'on peut vous rappeler demain matin, Tosi Maliki ? Je sais que vous patientez au standard depuis un moment, on est en direct, je gère ça en direct. Est-ce que vous êtes disponible ?
Oui, si possible, je serai disponible.
Bon, écoutez, on vous rappellera, puisque vos questions, je le disais, elles sont importantes, d'autant qu'il s'agit d'une nouvelle entité maghrébine qui pourrait très vite voir le jour, mais particularité, une entité maghrébine sans le Maroc ni la Mauritanie, d'où vos questions, Tosi Maliki, et on prendra le temps demain avec Pierre Vermerin, qui est historien, qui est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de vous répondre. Si comme Tosi Maliki, ou encore comme Enika ce matin, ou un peu plus tôt Isaac, ou encore en début d'émission Abdel, vous avez des questions sur l'actualité, surtout vous n'hésitez pas, vous nous les envoyez tout au long de la journée, le standard reste ouvert, nos équipes ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux, on récolte et on recueille plutôt vos questions, et on fait un maximum évidemment pour y répondre au plus vite avec nos experts ici au sein de la rédaction, mais aussi, vous l'avez entendu ce matin, nos envoyés spéciaux et nos correspondants 33 9 693 693 70 si vous souhaitez prendre la parole dans l'émission de demain matin. Dans 10 minutes, on lancera le débat sur le dialogue national au Gabon. Il se termine officiellement tout à l'heure, dans le courant de la journée, puisque le président Brice Oligui Nguema va recevoir officiellement les conclusions de ces assises qui auront duré trois semaines pour faire un état des lieux du pays, mais surtout pour proposer des réformes profondes pour l'avenir du Gabon. On connaît déjà plusieurs recommandations. Je vous le disais tout à l'heure, certaines font consensus, mais d'autres font polémique. Et surtout, cette annonce qui doit être encore acté, validé, bien évidemment, mais en tout cas, les participants au dialogue proposent de suspendre tous les partis politiques, de remettre toute la vie politique à plat, le temps de trouver et de mettre en place de nouvelles conditions pour créer des partis. Alors, est-ce une bonne décision? Est-ce que ça ne risque pas de créer des frustrations? On en parle et on en débat, évidemment, en direct sur RFI, juste après la dernière édition d'Afrique Matin. Restez avec nous.